Bonjour et bienvenue chez Rita. Rita, c'est le lieu de rencontre de tous les parents. Si vous êtes ici, c'est que vous-même allez devenir parent, ou peut-être l'êtes-vous déjà. Ici, on vous parle de maternité et de parentalité sans filtre. Et si vous êtes tombé chez nous par hasard, on espère que vous resterez quelques minutes de plus avec nous, le temps pour vous d'écouter notre épisode. La majorité des femmes n'ont pas conscience de leur périnée avant l'accouchement. Pourtant, lors de la grossesse comme de l'accouchement, il est soumis à rude épreuve. Pour éviter tous les désagréments pas très glamour de la période du postpartum, comme de se faire pipi dessus dès qu'on rigole un peu trop fort après l'arrivée de bébé, j'ai demandé les bons conseils de Camille Bertouille, kinésithérapeute spécialisée en rééducation périnéale. Dans cet épisode, elle nous donne les clés pour prendre soin de cet organe si précieux dont on oublie trop souvent l'existence. Camille, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, est-ce que d'abord, tu peux nous rappeler les bases? Finalement, c'est quoi un périnée?
Le périnée, c'est un ensemble de muscles. On peut imaginer ça un petit peu comme un hamac qui est tendu entre le pubis en avant et le coccyx en arrière et qui vient faire un petit nid, en fait, pour la vessie, le vagin avec au-dessus l'utérus, le rectum en arrière, et qui vient donc protéger ces organes des hyperpressions qui sont exercées au niveau de l'abdomen. Par exemple, quand on fait un effort, quand on tousse, quand on éternue, quand on fait du sport, en fait, dans toutes les activités de la vie quotidienne. Donc, cet ensemble de muscles qu'on appelle le périnée, il doit être fonctionnel, donc c'est-à-dire il doit pouvoir se contracter, se relâcher, il doit pouvoir se contracter assez fort, se relâcher complètement. Il doit pouvoir se contracter sur une longue période, donc garder un certain tonus, et au bon moment. Donc ça, c'est vraiment important, c'est le timing. Mmh. Et si tout ça fonctionne bien, bah, ça veut dire qu'on a un bon périnée.
Ouais, on comprend qu'il a un rôle très important, le périnée. Mmh. Mais comment tu expliques que finalement, il y a beaucoup de femmes qui n'ont même pas conscience, d'avoir un périnée, mais ne le contrôlent pas spécialement et prennent connaissance de leur périnée au moment de la grossesse ou parfois même au moment de l'accouchement?
Ben parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément, en tout cas dont on ne parlait pas beaucoup avant, mais j'ai l'impression que maintenant ça rentre vraiment plus dans les mœurs de faire attention à cette zone, parce qu'on s'est rendu compte que prévenir les désagréments en fait de cette zone du corps était beaucoup plus facile que les guérir. Mmh. Donc en fait, en entraînant son périnée par des petits exercices quotidiens ou hebdomadaires ou en prenant juste soin de cette zone-là, ben on évitait pas mal de symptômes qui surviennent en général après la grossesse.
Parce que c'est à ce moment-là du coup qu'on subit le plus de pression sur
voilà.
Son périnée.
Parce que pendant la grossesse, donc il y a le poids du bébé, puis il y a la prise de poids générale, il y a toute l'imprégnation hormonale qui va faire que tout ce qui est ligaments, fascia, ça va aussi être beaucoup plus laxe, beaucoup plus malléable. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le périnée, au-delà du fait que ça soit ce petit hamac qui soutienne les organes ils sont aussi en fait suspendus par tout ce qui est ligaments, fascia, à des organes qui se trouvent au-dessus et au diaphragme. Donc mm-hmm. Le diaphragme, c'est le muscle qui monte et qui descend en dessous des poumons lors de la respiration. Mmh. Donc tout ça, avec le développement du bébé dans le ventre, va être soumis à rude épreuve.
Donc il y a des femmes qui viennent te voir avant la naissance de leur enfant pour préparer l'accouchement. Comment tu les prépares en fait au niveau des exercices? Qu'est-ce que tu leur donnes à faire comme exercice?
Ben donc moi, soit elles viennent me voir parce qu'elles ont des douleurs. Donc là, je traite les douleurs et je leur donne des exercices. Parce que voilà, on sait que c'est les exercices associés au traitement local des douleurs avec les techniques de kiné qui vont permettre de diminuer les douleurs tout au long de la grossesse. Si c'est des douleurs qui se sont déclenchées que pendant la grossesse, la kiné va pouvoir aider en tout cas à réduire temporairement jusqu'à la fin de la grossesse ces douleurs.
Comment préparer au mieux l'accouchement au niveau de son périnée? Donc, est-ce qu'on s'exerce chez soi à respirer les semaines qui précèdent l'accouchement?
Avant même de décider de tomber enceinte ou au début de la grossesse, elle peut s'assurer d'avoir un périnée qui fonctionne bien. Donc ça veut dire de ne pas avoir de symptômes. S'il y en a, c'est pas parce que on est enceinte qu'on ne peut pas faire de rééducation périnéale. Donc elle peut consulter une kiné et remédier aux petits troubles qu'elle a.
Quand tu parles de symptômes, c'est tout ce qui est donc par exemple fuite urinaire.
Fuite urinaire, mmh. Fuite au gaz ou urgenturie, parce qu'on sait que la grossesse, ça va accentuer mmh. ces troubles s'ils sont déjà présents et qu'il y a plus de chances qu'il y ait des troubles aussi après la grossesse. Alors que si on part avec un bon terrain, un périnée qui fonctionne bien, on a beaucoup moins de chances d'avoir des troubles au niveau du périnée après la grossesse. On sait aussi que tout ce qui est activité physique et maintien d'une bonne forme physique durant la grossesse va permettre de diminuer les chances d'avoir des troubles au niveau du périnée après la grossesse. Donc la Haute Autorité de Santé, elle recommande d'avoir 150 minutes d'activité physique par semaine avec une intensité faible à modérée répartie sur minimum 3 jours par semaine. Donc tout ça, c'est dans le cadre de grossesse où il n'y a pas de risque.
Est-ce que le massage, donc je ne sais pas comment on appelle ça exactement, permet d'éviter tout ce qui est déchirure ou épisée, ou en tout cas de prévenir et de préparer au mieux son périnée?
En tout cas, le massage périnéal permet, oui, de limiter le risque de déchirure et d'épisiotomie. Maintenant, il faut savoir que souvent, on a tendance à masser juste la muqueuse. Il faut vraiment masser le muscle puborectal, donc le muscle qui est sectionné lors de l'épisiotomie, et pas la muqueuse, parce que ça ne va rien changer. Donc la muqueuse, c'est la petite couche qui est à l'intérieur du vagin, qui est assez humide, qui se lubrifie. Et le muscle, c'est vraiment la partie qu'on peut contracter et relâcher. Donc si on veut faire un petit massage au niveau vaginal pour préparer son périnée, c'est une bonne chose. Mais alors, il faut s'assurer qu'on masse vraiment le muscle. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire une petite contraction. Donc comme si on essayait de resserrer le vagin, ou comme si on essayait de retenir un gaz et de relâcher. Comme ça, on voit vraiment la partie à venir masser. Et ça, c'est recommandé à partir de la 35e semaine de grossesse, une à deux fois par semaine, avec du lubrifiant, une petite huile ou une huile essentielle, en tout cas ce qui convient habituellement à la future maman qu'elle a l'habitude d'utiliser dans cette région-là. Donc ça, il y a des études qui ont prouvé que ça améliorerait la souplesse du périnée, surtout pour un premier enfant. Pour les grossesses suivantes, il n'y a pas d'études qui ont montré que le massage permettait de diminuer le risque d'épisiotomie ou déchirure, mais pour un premier enfant, oui, ça a été démontré.
Et est-ce qu'il y a d'autres techniques en fait qu'on ne connaît pas spécialement ?
Ben donc, il y a tout ce qui est épineux. Mm-hmm. Donc l'épineux, c'est une sorte de petit ballon qui se gonfle avec de l'air, qu'on va venir mettre au niveau du vagin et de l'ouverture vaginale pour un peu préparer le périnée au passage de la tête du bébé. Maintenant, c'est une technique, c'est un dispositif médical qui a été créé. En fait, ça, c'est pour un petit peu reproduire ce qu'utilisent les femmes dans les pays, surtout dans les pays du Sud, surtout en Afrique. Elles utilisent déjà ça, c'est comme des petites bourses de différentes tailles qu'elles viennent placer au niveau vaginal pour préparer le périnée. Donc voilà. C'est utilisé depuis des centaines d'années dans cette culture. Donc nous, on a essayé de le reproduire un petit peu en mode médical. Mais les études qui montrent l'efficacité sont surtout réalisées par les concepteurs de cet outil. Mais peu d'études ont étudié les faits réels qui permettraient en fait de le recommander. Mais c'est très prometteur.
D'accord.
D'ici quelques années, s'il y a beaucoup d'études qui montre que c'est vraiment efficace, moi je serais super contente de le recommander à mes patientes si ça peut les aider. Mais pour le moment, on attend encore un petit peu. La limite aussi, c'est que ça coûte quand même assez cher. C'est 130 euros environ.
D'accord.
Donc ça a quand même un certain coût.
Et il n'y a pas de risque à utiliser ça quand on ne connaît pas spécialement l'appareil? Est-ce que du coup, ça demande de l'utiliser en étant encadré par justement un professionnel, ou tu l'utilises à la maison?
Donc il y a un petit manuel qui explique comment l'utiliser. Si la future maman elle est à l'aise avec ça, elle peut l'utiliser toute seule. Il n'y a pas de risque réel. Maintenant, elle peut toujours en parler à sa gynéco, surtout si elle a une grossesse à risque. S'il n'y a pas de notion de grossesse à risque, si elle est à l'aise, je pense qu'elle peut l'utiliser. Maintenant, moi, les patientes qui ont l'envie comme ça d'utiliser des techniques un peu alternatives pour préparer leur périnée au mieux, elles peuvent le ramener en séance, on en discute, on l'essaye. On voit un petit peu ce que ça donne et on évalue les risques, le bénéfice, tout ça.
Est-ce que tu peux nous expliquer comment bien pousser lors d'un accouchement ?
Oui, donc il y a deux façons de pousser. Donc en fait, deux façons de respirer. On a soit l'inspiration bloquée ou ce qu'on appelle la poussée en apnée. Donc on ne respire pas, on bloque la respiration et on pousse. Donc ça, c'est celle qui est vraiment la plus utilisée. Et alors, il y a l'expiration freinée qu'on appelle aussi la poussée en apnée résistée. Donc l'effort est beaucoup moins violent pour le périnée et il est encore plus efficace. Donc c'est vraiment la poussée qu'il faut adopter lors de l'accouchement. Et ce type de poussée, ben voilà, le kiné peut la prendre, la sage-femme peut la prendre aussi à la future maman. Moi, ce que je fais avec mes patientes, c'est que je leur apprends à souffler longtemps. Donc en fait, avant leur accouchement, je leur explique qu'elles peuvent prendre un petit chronomètre et se chronométrer. Et donc essayer de souffler, parce qu'on n'apprend jamais à pousser avant un accouchement, mais on peut se préparer. Et je leur apprends également la bonne position, donc il faut toujours être la plus grande possible, donc avoir la tête la plus éloignée du coccyx possible pour vraiment faire de la place et que le bébé puisse descendre. Donc surtout pas se plier en deux. Mais on sait que la plupart des accouchements se passent en apnée et en accrochant ses jambes et en se pliant en deux.
La pire position.
La pire position pour le périnée.
Ce serait quoi, selon un kiné, la position idéale pour accoucher ?
Je crois pas qu'il y a de position idéale. Maintenant, on sait que la plupart des femmes accouchent sur le dos pour des raisons pratiques, en fait, en salle d'accouchement. Maintenant, il y a quand même beaucoup de femmes qui accouchent sur le côté. Accoucher, donc, en position latérale permet de diminuer le taux d'épisiotomie et de déchirure qu'en position allongée sur le dos. Donc ça, maintenant, ça commence à se faire aussi. Maintenant, il y a des femmes qui accouchent aussi en position à quatre pattes, suspendues, en fait, dans les salles d'accouchement, il y a parfois des petits cadres avec des sangles. Et donc, elles accrochent suspendues à la sangle. En fait, c'était une position qui était adoptée par les femmes parce qu'elles se sentaient bien dans cette position pour accoucher. Et c'était une position très physiologique puisque la gravité jouait, puisqu'elles étaient un peu accroupies, suspendues. Donc, leur dos était bien droit, le bassin en bas était bien ouvert et la gravité aidait le bébé, en fait, à descendre.
Et là, aujourd'hui, du coup, tu parles de position latérale et là, on n'a pas la gravité qui aide spécialement.
Non, on n'a pas la gravité, mais alors, comme c'est en position latérale, la jambe du dessus est posé sur l'étrier et donc là en fait on a un cisaillement du bassin qui permet au bébé de se glisser plus facilement. Les études ont montré que il y avait moins de risques de déchirure et d'épisiotomie. Maintenant il faut que ce soit confortable pour l'équipe, pour la maman, que ce soit réalisable à l'instant T où le bébé va venir au monde. Maintenant des déchirures, il peut y en avoir des toutes petites où c'est juste un ou deux points où ça ne va pas gêner la maman après. Maintenant, il y a des déchirures qui sont beaucoup plus invalidantes et qui seront plus délétères pour le périnée, qui vont entraîner d'autres symptômes après. Donc l'épisiotomie, ce n'est pas toujours une mauvaise chose, en fait. C'est même une bonne chose dans pas mal de cas. Et en fait, c'est au moment où le bébé pousse sur une membrane, juste avant vraiment de sortir, que le gynécologue va un peu évaluer, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait une épisiotomie ? Est-ce qu'on n'en fait pas ? Et c'est lui qui va un petit peu évaluer s'il fait ou pas cette petite incision, toujours dans le but de protéger le périnée. Maintenant, l'épisiotomie, c'est aussi un phénomène, entre guillemets, de mode. Il y a des pays où d'office, on fait une épisiotomie, si on regarde les études, et d'autres pays où on en fait beaucoup moins. Puis il y a des pays où c'est un peu le gynécologue qui choisit et c'est... voilà, c'est son expérience qui décide. C'est vraiment en fonction des zones géographiques où il y a plus d'épisiotomie à certains endroits qu'à d'autres.
Qu'est-ce qui augmente justement le risque d'avoir un traumatisme du périnée ?
C'est que ce soit la première grossesse, ou c'est la première fois qu'il y a un événement d'une telle ampleur dans cette zone-là du corps. C'est l'utilisation d'instruments comme le forceps, les forceps ou les spatules, qui aide en fait le gynécologue à sortir le bébé. Si le poids du bébé dépasse 3,7 kg, là aussi on augmente le risque. Si le bébé a un périmètre crânien qui est important, s'il a une présentation en siège ou en postérieur, s'il y a une hypotonie du noyau fibreux central. Et ça, c'est important.
Donc, c'est quoi ?
Donc, c'est une hypotonie de la partie du périnée qui se situe entre le vagin et l'anus. Donc, si on a un périnée un petit peu trop mou, en fait, j'ai envie de dire, s'il est un peu hypotonique, eh ben, on a plus de chances d'avoir une déchirure. Donc, une raison de plus d'avoir un périnée fonctionnel avant l'accouchement.
Et de bien le préparer.
Et alors, si c'est un petit garçon, là, on a plus 50% de chances d'avoir un traumatisme au niveau périnéal.
Comment t'expliques ça alors ?
Parce que le périmètre crânien est généralement plus grand et aussi au niveau des épaules, c'est plus large. Et il y a encore une dernière chose, c'est si on est hyperlaxe, donc si on a les ligaments qui sont... si on a une tendance à être hyperlaxe, donc c'est un petit peu les filles qui savent mettre leurs pouces sur leurs poignets, qui savent tendre le bras même jusqu'à aller en négatif. Donc ça, c'est un peu l'hyperlaxité.
En fait.
Voilà.
Ouais.
Et le point de rupture des tissus, en fait, est beaucoup plus précoce. Donc la déchirure, est... il y a plus de chances d'avoir une déchirure.
Quels sont les maux les plus courants, en fait, en post-accouchement ?
Donc, les maux les plus souvent qu'on retrouve en post-accouchement, ben, ça va être les fuites urinaires, surtout en post-accouchement précoce. La constipation. On peut aussi retrouver des hémorroïdes, des problèmes circulatoires, parce que voilà, le système circulatoire aussi est impacté avec le développement du bébé. Tout ce qui est compression veineuse, ça peut créer des œdèmes, etc. C'est un peu propre à chaque personne, à chaque histoire. On peut avoir des douleurs donc liées au passage du bébé, parce qu'il y a une déchirure, une épisiotomie, parce qu'il y a eu une césarienne peut-être aussi. On peut avoir une sensation de lourdeur, de pesanteur au niveau vaginal. Il y a une modification hormonale, donc on sent un petit peu que c'est vide aussi au niveau du ventre.
Pour beaucoup de femmes, les rapports sexuels peuvent être douloureux après un accouchement. Est-ce que toi tu rencontres justement beaucoup de femmes dans ce cas-là?
Oui, beaucoup, je peux dire qu'il y en a beaucoup, parce que souvent c'est d'elles-mêmes qu'elles m'en parlent. Il faut savoir que la cicatrisation, déjà après une déchirure ou une épisiotomie, c'est environ 21 jours. Et il faut aussi que les logis, donc les petites pertes de sang, disparaissent. Et c'est souvent après la visite chez la gynécologue qu'elle commence à reprendre les rapports. Elle préfère toujours attendre ce moment-là. Maintenant, si elles ont envie de reprendre avant, il n'y a pas de souci, il faut bien utiliser du lubrifiant. Forcément, il ne doit pas y avoir de douleur, mais ça ne l'est pas si elles ont envie de reprendre avant. Et si elles ont envie de reprendre, mais qu'elles ont des petits désagréments, comme par exemple une sécheresse, des douleurs, elles peuvent en parler à leur gynécologue ou elles peuvent en parler à leur kiné, qui peuvent leur montrer des petites techniques, comme par exemple le massage, qu'elles peuvent même avoir appris en prénatal. Mm-hmm. Elles peuvent appliquer le même massage avec un lubrifiant, avec des gels qui viennent un petit peu endormir les muscles pour retrouver une certaine élasticité. Elles peuvent adopter des positions lors du rapport qui permettent vraiment de détendre le périnée et de diminuer la douleur si la douleur est due justement à une contraction réflexe parce qu'il y a eu une petite douleur à un moment donné. La maman se met donc sur le dos avec les genoux qui se rapprochent de la poitrine. Là, normalement, le périnée est plus détendu, le bas du bassin sera plus ouvert et le rapport sera plus facile aussi.
Combien de temps il faut à une femme en moyenne pour se remettre d'un accouchement par voie basse ?
Donc pour se remettre d'un accouchement par voie basse ou d'un accouchement en général, il faut au moins le même délai que le temps pour créer le bébé. Donc il faut au moins compter 9 mois, mais donc on va dire 1 an.
Ok.
1 an parce que on a le postpartum précoce, donc qui dure 42 jours, donc 6 semaines. Donc c'est les 6 semaines où la maman, on la laisse tranquille, on lui demande rien. Et après ces 6 semaines, c'est pour ça qu'on commence justement la kiné, qu'on retourne faire la visite de contrôle. Et là, c'est ce qu'on appelle le postpartum tardif. Et le postpartum tardif, c'est la période qui dure de 6 semaines à 1 an.
Ok, d'accord.
Donc pour se remettre d'une grossesse, d'un accouchement, il faut 1 an. Parce qu'on sait que on va avoir un remaniement en fait de toute la zone génitale qui va durer de 4 à 6 mois. Que pour tout ce qui est adaptation vasculaire, ça va mettre jusqu'à 12 mois. Et pour tout ce qui est hormonal, ça va aussi mettre entre 3 et 6 mois. Donc globalement, il faut 1 an.
C'est tout à fait normal de ne pas retrouver non plus son corps avant 1 an,
oui,
après un accouchement.
Exactement. C'est pour ça d'ailleurs que les séances de kiné postnatale, elles sont valables 1 an.
Merci Camille pour toutes ces explications. On espère qu'avec tout ça, les mamans et futures mamans y verront plus clair et surtout qu'elles prendront bien soin de cet ensemble de muscles qu'est le périnée, qui est si précieux.